Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Bout de Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniol et Emmanuel Rubin.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau moment de Goût et de Luxe avec mon complice de toujours, Emmanuel Rubin, directeur éditorial des éditions Jaloux. Et ce week-end, nous vous faisons découvrir les coulisses des nuits parisiennes. Quelles sont les adresses les plus courues, les clubs les plus sélects, les bars les plus cachés? Et puis surtout, comment y entrer? Eh bien, peut-être que vous le saurez après avoir écouté le journaliste Antoine Bess, le noctambule Julien Véry ou encore le videur Big John de Paname. Ils seront avec nous dans un instant pour nous raconter les dessous de la nuit capitale. Mais pour l'heure, les nouveautés de la semaine.
Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end, les nouveautés de la semaine.
Et pour les nouveautés de la semaine, Emmanuel, nous accueillons aussi Sandy Pronoy.
Bonjour
Sandy, pour Web de Luxe dans un instant. Mais d'abord, la table de la semaine, le resto de la semaine.
Ça s'appelle Belle Maison. Ça a ouvert il y a un petit mois. Alors, c'est un succès monstre. Et c'est pour ça que j'en ai pas parlé tout de suite, en espérant que passer les coureurs de nouveautés, tout ça se décante. Pas du
bon,
tout.
Bon, c'est raté.
Alors, c'est assez rageant parce que.
On
peut y aller, mais réservez tôt et vite. D'autant plus que c'est un peu rageant parce que c'est Franck Barranger. On le connaît bien, Franck Barranger. On l'a souvent reçu ici. Il signe du côté de Pigalle, du 9e arrondissement. Bien avant que ce soit la mode, il a choisi ce quartier pour le relancer du côté de la chose gastronomique. C'est lui qui a le caillebotte, le pantruche. Des adresses justement qui sont régulièrement pleines. Donc tous les 2-3 ans, il offre une voie de délestage.
Ça, cette fois-ci, et alors, ça s'appelle la Belle Maison.
La Belle Maison, rue de Navarin, en lieu et place de ce qu'était la maison mère, vous savez, tout à côté de l'hôtel Amour. Cette fois-ci, il a choisi de travailler autour de la mer, des coquillages, des fruits de mer. Et ma foi, c'est encore super réussi. Alors je vais pas vous détailler toute la carte, parce que régulièrement, sur une année, il y a comme ça des plats qui sortent du lot, des recettes qui s'inscrivent immédiatement comme des plats signatures. Ici, il ne faut pas louper le risotto de calamar. C'est un risotto de calamar vraiment travaillé en manière de risotto. Et vous savez qu'un risotto, ça vient boire à un jus de sauce. Ici, c'est un bouillon d'oignons brûlés. Alors, il y a plein de petits topics qui viennent en plus agrémenter, ça les éoder, l'affaire, notamment des chorizo en filament, ça c'est le plat, faut pas le laisser pousser, passer, faut le laisser pousser par contre. Également des superbes plateaux de fruits de mer, alors une marée qui crie sa fraîcheur, XXL hein, les marées, 2 étages, très réussi, joli décor, c'est tout ce qu'on aime. Alors comme on est quand même sur la fibre marine, il faut accepter que ce soit du 45-50 euros, mais c'est le prix à payer si on veut une marée d'exception. Belle Maison, très réussi, par la bande du pantruche et du
caillebotte. Dans le 9e arrondissement de Paris. Il y a 2 semaines, on avait fait une émission spéciale bar. Il y en a 2 tout nouveaux, comme il venait de sortir. On n'en avait pas encore parlé. Je vous en parle rapidement. Vous irez les tester. Emmanuel, 2 ambiances de genre différents. Le Fou, 37 bis rue du Sentier, dans le 2e arrondissement de Paris, en lieu et place de la conserverie. C'est ambiance anglaise, bar à whisky. Notez bien, c'est John Rillan qui l'a créé. C'est vraiment dans la lignée du Harris Bar.
C'était grand très joli, la conserverie, en plus.
Voilà, là, c'est vraiment les serveurs en veste et habillés blancs, ambiance feutrée, beaux matériaux. Vraiment, c'est un joli décor. Et au sous-sol, musiciens en live, genre plutôt jazz punk. Ça, première ambiance. 2e ambiance, le groupe Bo Marley, la grande armée se transforme en la belle armée. Ça, c'est l'info resto. Emmanuel, c'est votre partie. Et du coup, le premier bar à cocktail du groupe Bo Marley, en plein cœur du Triangle d'Or. Donc, c'est Gilbert et Thierry Coste aux manettes. Côté cuisine, c'est Thierry Burlot. Et côté barman, c'est Gabriel Weyhen. Donc, il savait faire à découvrir là aussi.
Pour vraiment, c'était l'ancienne Grande Armée. En fait, rien n'a changé. Toujours le même décor à la Garcia. Toujours la cuisine made in Coste, plutôt bien faite, carrée, qu'on commence à connaître sur le bout de la fourchette.
Sauf
en revanche,
là,
la nouveauté, c'est
cocktail.
Le bar à cocktail.
Voilà.
Et plutôt réussi dans un quartier. On est au cœur de l'étoile, finalement. Il n'y a pas tant de choses que ça.
Eh ben voilà.
C'est un bon point d'ancrage.
Web de Luxe.
Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end. Web de Luxe.
Sandy.
Oui, Karine.
Colcause en 2007. Mais qu'est-ce que c'est Colcause?
Colcause, c'est un nouveau site qui propose du mobilier d'art contemporain, de réunir sur une plateforme quelques-unes des plus belles pièces référencées
ça,
dans les expositions et les foires internationales.
C'est ça l'idée du communautaire. Je me demandais d'où ça venait Colcause.
Voilà. Vous avez tout pigé. En fait, vous l'imaginez, hein, c'est comme ce sont des référencements de pièces. Évidemment, ce sont des pièces en édition limitée. On trouve véritablement de tout, des choses franchement formidables. Il y a des tables qui sont absolument exceptionnel. Il y a des chaises longues inimaginables, des paravents étonnants, des luminaires, beaucoup de choses comme ça. Au moins admirables si on n'a pas les moyens de se les payer, parce que c'est...
On est quand même sur du design d'art. Hein.
on est sur du véritable luxe. Donc au moins on peut regarder. Ce qui se passe en fait, c'est que c'est un espace de curation et un espace aussi de vente en prise directe avec les créateurs, avec les designers. Tout le monde est mis en commun ici, les acheteurs, les clients privés dans le monde entier. C'est permis grâce à deux personnes ce site. La première, c'est Thibaut Vandenberg, amateur de création d'exception et des arts décoratifs. Je ne cite que ça, évidemment, il a fait beaucoup d'autres choses et il fait toujours beaucoup d'autres choses en parallèle. Il est associé à Thomas Herbert, qui a précédemment, vous le connaissez bien Emmanuel,
fameux cabinet Curiosité. Donc c'est vrai que Thomas, il a un gros réseau sur toute la, ce qu'on appelle la jeune création. Oui. Ce qu'il y a de bien dans le site, c'est qu'on n'est pas forcément, on en parle souvent, c'est dans la réédition de... Alors, c'est pas un site qui va regarder sur les années 50, 60, 70, mais sur la création du moment. Ceux qui, demain, seront peut-être les Charlotte Perrin et compagnie.
Et d'ailleurs, on peut les citer, hein, Victoria Villemotte, Mathias Kiss, Thomas Lemus, Studio Cool, etc.
Voilà. Très bien. Vous les connaissez déjà. C'est un site, donc Colcos, allez le voir. Vraiment, ils apportent tous les deux et tous les autres un très bel intérêt à ce site. Au moins pour regarder. C'est sublime. C'est sublime.
Vraiment. On va bien trouver une petite pièce.
Faire. Et puis, sortez le portefeuille.
Une nouvelle marque d'accessoires.
Oui, une marque française. Alors là, ça s'appelle Avel & Men. En breton, ça signifie quoi? Vous parlez breton?
Pas du tout. Men, c'est l'homme.
Le vent et la roche. Men en anglais, c'est l'homme, mais en breton, c'est la roche.
Ah bon, je crois que c'était des anglo-saxons.
En fait, ici, enfin, en même temps, il y a un petit jeu de mots. Ouais. Ici, en fait, on trouve des créations un petit peu univers nautique, essentiellement pour les hommes, encore que les femmes peuvent se satisfaire des petits carnets de notes, des porte-clés, etc. Pour les hommes, des ceintures au nom de bateau, Riva, hein, rien que ça. Et puis surtout un sac à dos, c'est l'objet du moment, ils en parlent un petit peu partout. Le sac à dos en cuir, avec un logo sur plaque de carbone, pour faire le lien avec les bateaux de course, évidemment. Des poignée en cordage, doublure façon carte isobarique. C'est pas destiné à être embarqué, il est pas étanche. Mais il est beau.
Ah bon ?
Mais il est beau. En fait, c'est le style marin.
C'est
marins,
les marins bretons, quoi.
Ouais, c'est ça. Et il est lui aussi un petit peu cher, 738 € pour pas pouvoir l'embarquer sur le bateau. Mais c'est sympa
c'est
quand même.
C'est les marins de Quai de Seine.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est quand vous êtes sûr de pas tomber.
Je vais passer un joli petit compas, là.
Ouais, c'est le savoir-faire et made in France, on va dire. Voilà, ouais, ça voilà, s'appelle.
Non, c'est joli. Et beaucoup d'autres créations à venir. Avel & Men.
Et si vous nous en parlez, c'est parce que c'est uniquement disponible sur Internet pour
Exactement.
L'instant, sur leur site Internet. Merci beaucoup, Sandy. Allez, Emmanuel, une petite boutique.
Rapidement, on va commencer à remplir le coffre-fort gourmand pour ces fêtes de fin d'année. Ça s'appelle Viandas de Salamanca. Alors, vous savez, depuis quelques années, tout le monde ne jure que par la salaison ibérique. Il faut dire qu'elle a fait un travail extraordinaire. Alors, on connaît déjà Bellota. On connaît Rabouro. Vous savez, beaucoup d'adresses comme ça qui, aujourd'hui, ont décidé... Alors, l'adresse existait déjà. Elle vient de s'installer. De déménager, déménagement très réussi. Nous sommes exactement au 150 boulevard Saint-Germain, c'est vous dire. Et c'est vrai que, ma foi, on retrouve les ramon ibérico, les chorizo, les lomo, quelques fromages aussi. Et puis surtout, c'est sur ces petites boutiques de poche, où tout le personnel, au moment du tranchage notamment, j'allais dire mettre des manières helvètes, des manières horlogères, des manières précieuses pour vous servir, faut dire, une charcuterie d'exception. Le lieu est assez délicieux. C'est vrai que ça donne déjà envie de partir.
Rien qu'à le voir, je sens déjà, ça sent.
Quand vous repartez avec vos tranches, franchement, je vais vous dire, c'est un peu comme quand vous sortez de la banque, parce que ça se passe bien.
Ouais.
Vous faites très attention. Puis alors,
parce qu'il y a des choses de haut vol aussi.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils jouent un petit peu la street food, c'est-à-dire qu'à l'heure du déjeuner, ils font quelques bocadillos, c'est-à-dire quelques jambons, quelques sandwichs jambon, tout simple.
Super.
Une belle tranche de baguette jambon, c'est délicieux.
Voilà, 150 boulevard Saint-Germain. Dans le 6e arrondissement de
un
Paris.
Ton plus chic.
Eh bien, moi, je vais vous parler de cuisses de grenouille. Et ça ne se mange pas. Cuisses de grenouille, c'est la fameuse marque de, inspirée du vintage surfer des années 60. Ce sont toujours deux jeunes frères qui ont lancé ça depuis 2010. Première collection de maillots de bain coupés un peu surfer. Et puis, ils sont développés. Résultat, aujourd'hui, ils proposent une collection pour les femmes. Voilà, c'est ça la nouveauté qui reprend évidemment les codes parisiens. Alors on est un peu moins surf, un petit peu plus comment dire, c'est, quand même leur idée c'est de porter du sport en ville, donc on est cool quoi, on est assez cool et c'est dans une boutique dédiée rue Vieille du Temple, voilà, pour ces mesdames, pour cuisses de grenouille. Et je vais terminer avec l'objet de la semaine, et là c'est pour les petits-enfants. Je vous emmène au Prince de Galles. Prince de Galles, donc, bien sûr, l'hôtel, le palace parisien, avenue Georges V. À l'heure du goûter, on peut déguster son petit goûter. Alors le petit goûter, crêpes, smoothies, cookies et autres saveurs sucrées, sauf que c'est fait par Nicolas Paciello, le chef pâtissier, sous la houlette de la chef Stéphanie Lequelec. Donc déjà, ça ne doit pas être trop mauvais. Et le petit sac à dos, c'est un collector en fait. C'est une édition limitée par la fille Missoni, si je vous dis Margarita Macapani, parce que désormais c'est son nom, Missoni. Et ben voilà, elle a dessiné le petit sac à dos. Et donc à l'heure du goûter, pour les enfants, pour aller vous balader dans Paris, vous avez le petit sac à dos collector. Alors si vous prenez le package family, c'est offert, bien sûr. Sinon, ça coûte 48 euros, tout ça. Mais il est so cute.
C'est un petit peu le principe du Happy Meal, quoi. Mais non, en version un ton plus chic.
Ah non. Ah ben, si, et d'abord, le sac à dos, c'est Urban Safari. C'est pas un sac, c'est pas un sac en papier.
Ils ont
et
juste le petit sac à dos. Petit sac à dos. Non, mais
c'est une bonne idée. Hyper beau, ce sac à dos, ambiance.
Je trouve que c'est un petit peu un prétexte pour que les mamans aillent goûter, en vérité.
Ouais, je pense que
les enfants, sac à dos ou pas, goûtent ou pas, Prince de Galles ou pas, en même temps, ils ont un beau terrain de jeu. Le Prince de Galles, tu peux vraiment commencer à y aller en roller.
Non, mais ils sont hyper inventifs, les palaces, pour inventer des petites choses différentes. Celle-là, on ne l'avait pas encore vu, le sac à dos est vraiment sympathique. Et ce qui est rigolo, c'est le petit guide, donc des adresses quand même de Margarita, de son Paris à elle.
C'est
le jardin d'Aclim, le jardin du Luxembourg, l'atelier des chefs, le musée des arts forains et la cité des sciences. On avait besoin d'elle pour avoir ce petit guide. Donc on gardera, c'est bien ce que je disais, on gardera le sac et le goûter quand même, en tout cas pour ce joli clin d'œil. Urban Safari au Prince de Galles. C'est bien ça, je vous ai bien dit le Prince de Galles.
Prince de Galles.
J'ai cru, je m'étais trompée un instant. Merci infiniment, Sandy. On se retrouve la semaine prochaine. Pour d'autres nouvelles de luxe. Allez, et nous, notre luxe de la semaine, on se met en tenue de soirée, les coulisses de la nuit, tout de suite.
Goût de luxe Paris, l'édition du week-end, le luxe de la semaine.
Et le luxe de la semaine, c'est de pouvoir rentrer dans toutes les plus belles adresses de nuit de la capitale, les clubs les plus huppés, les bars les plus planqués. Et pour y arriver, on a invité trois hommes. Ben ouais, ce sont des hommes, encore une fois. Sont avec nous. On va commencer, tiens, par Julien Véry. Bonjour.
Bonjour, Karine.
Co-auteur du livre Paris Dernière aux éditions Duchesne, qui raconte donc cette fameuse émission d'Ardisson, mais qui donne aussi toutes les adresses et quelques anecdotes et des rencontres, parce que c'est aussi ça, cette émission.
C'était comment l'émission ?
Paris Dernière.
Ah oui, j'ai entendu parler.
Vous êtes également fondateur de l'agence des Tâchés Presse. Et donc, voilà, petit à petit, vous êtes venu nocturne. Vous avez plongé dedans, quoi. Vous nous
racontez. C'est ça, en fait, c'est venu un petit peu par hasard. Et de rencontre en rencontre, parce que la nuit, c'est quand même beaucoup ça.
C'est
beaucoup une histoire, des histoires humaines, en fin de compte. Hein. De rencontre en rencontre, j'ai commencé à tout d'abord être client. D'ailleurs, monsieur a eu l'occasion de m'avoir plusieurs fois sous son nez, peut-être même de temps en temps, a dû peut-être me virer de certains endroits. C'est
en tout cas, vous empêcher de passer.
Voilà. Et de là, en fait, on est venu à des amitiés vraiment humaines, dont l'équipe de Paris Dernière, Alexandre Jeannette, le réalisateur, et Maxime Passador, qui est le photographe qui a illustré tout le livre.
Eh bien voilà, Antoine Besse.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Excusez-moi, je me réveille.
Excusez-moi, qu'est-ce que tu as dit ? Journaliste, journaliste habitué des bars. Non, c'est pas terrible de dire ça. En tout cas, c'est quand même votre spécialité depuis quelques années maintenant à Paris.
C'est vrai. Ça fait quelques temps que je traîne dans les bars et les clubs.
Et d'ailleurs, vous allez même chercher les bars et restos planqués. C'est votre dernier opus qui vient de paraître chez Parigram, un joli petit guide.
Bah ouais, j'ai essayé de voir un peu ce qu'on voit pas de la rue. J'ai essayé de voir tous les bars et les restaurants qui se comptent. On ne voit pas de la rue, et donc ils sont derrière les portes cochères, au premier étage, dans les caves,
dans
les
toits.
En plus, qu'est-ce que ça raconte de la capitale ?
Et puis, avec nous également, John.
Bonjour.
Portier au Baron pendant 10 ans, entre autres. Et vous êtes sorti un bouquin, Big John de Paname, chez Anne Carrière Édition, qui raconte justement, pas seulement d'ailleurs à la porte du Baron, mais on racontera tout à l'heure justement votre première baronnade, comme vous racontez. Je voudrais juste lire le tout début pour qu'on comprenne un petit peu ce que vous faites, tout simplement. 1h du matin, en bas de l'avenue Marceau, l'Arc de Triomphe à ma droite, on imagine bien, la Seine à ma gauche, les lumières de la Tour Eiffel scintillent une dernière fois. Les belles cylindrées roulent à 20 à l'heure pour être sûr qu'on ne les rattrape pas. Derrière moi, un chapeau rouge lumineux, ça dit quelque chose. Devant moi, 4 cordons de velours rouge qui assurent mon espace et derrière ces cordons, la foule de fêtards impatients. Je suis ce que beaucoup appellent un videur. Voilà, c'est ça le contexte et c'est ça votre boulot depuis plusieurs années avec des anecdotes croustillantes et qui racontent justement les coulisses de ces nuits parisiennes. On va y revenir dans un instant. Première chose, quand on regarde et Paris dernière, est-ce que vous lisez, ce que vous écrivez avec Jeanne de Valin, on sent comme une petite nostalgie quand même, Julien. C'est parce que c'est l'émission se termine, c'est parce que le baron est fermé depuis quelques mois.
Une grande époque.
Ouais.
Grande époque qu'on a vécue pleinement. Effectivement, là, c'est complètement différent aujourd'hui. Les initiatives sont plus les mêmes. C'est très, aujourd'hui, c'est très collectif. On essaye de mixer des savoir-faire, des choses, mais il y a beaucoup d'ateliers qui se créent la nuit, des choses comme ça maintenant. Alors qu'à l'époque, c'était vraiment des rendez-vous d'amis, quoi.
Mais à l'époque, à
et
quelle
puis,
époque?
On a aussi un certain âge maintenant, donc peut-être qu'on se retrouve.
Ouais, c'est ça.
Ouais, parce que si nous, on avait fait pas mal d'émissions sur la nuit, on voit qu'elles sont d'abord, qu'elles se déportent pas mal hors de Paris.
Ouais.
Parce qu'il y a souvent plus d'espace, plus de lieux, que les réseaux sociaux ont certainement changé la donne pour accompagner la nuit, qu'on voit de plus en plus de spots qui se font vraiment, qui se décident quasiment à l'improviste.
C'est ça.
Et donc, ce qui fait que c'est plus tout à fait la même sociologie. Et puis, vous avez tous des barbes, poivre et sel, voilà, c'est tout.
Ah, c'est ça.
Et
c'est
un coup de vieux.
Aussi, ouais. On sort moins.
Antoine.
Ah non, moi, je trouve
et
que.
Et puis, il y a quand même une scène électro qui est aussi balancée. Un petit peu un univers de nuit dans ses espaces, dans sa dimensionnage un peu différent.
Ouais, moi je trouve que la nuit, enfin dire que le Baron c'est 2004 quoi, 2005 à peu près, un truc comme ça.
Ouais, c'était avant-hier.
Voilà, ouais, on était donc c'est quelle heure est-il? Mais le truc c'est, enfin je trouve que c'était il y a 10 ans et que la nuit parisienne a explosé entre temps. C'est que le nombre de lieux a explosé, le nombre de collectifs comme tu disais a aussi explosé, des grands lieux, des petits lieux. Enfin vraiment la nuit parisienne a totalement changé et effectivement on ne rajeunit pas, ça c'est un fait, je le concède bien volontiers. Mais en tout cas, on peut voir qu'effectivement, c'est peut-être plus des groupes d'amis parce que nos amis sont partis se coucher, mais c'est que ça reste une nuit extrêmement énergique, je trouve, la nuit.
C'est un peu la nuit génération X, ce soir. Bah non, c'est pas proche, mais les millénials, il faudra repasser.
Parce que ceci, il y a quoi? Il y a 200 adresses dans Paris.
200 adresses, et on a essayé un petit peu de reprendre toute la narration de l'émission, en commençant par ce qui était... encore digne sur les coups de 18-20 heures avec tout ce qui était galerie, concept store, etc. Là où il pouvait y avoir des lancements, des happenings, des rencontres d'artistes, des choses comme ça.
Ouais, parce que la nuit commence à 18 heures dans les galeries.
Bah, c'est
quoi.
Une fois le travail terminé en fait.
C'est
ça. Hein. Ça reprend, comme vous dites, la matrice de Paris dernière. Alors rapidement, on rappelle quand même ce qui est devenu une émission culte. C'est quoi l'idée de départ de Thierry Ardisson? Parce qu'après, il y a eu d'autres animateurs, Xavier Desmoulins, Tadei, François Simon. C'est quoi? Elle a jamais changé cette matrice pendant des années. Et c'est ce que vous reprenez comme fil conducteur.
Exactement, la caméra subjective. Qui rentre dans des lieux à la rencontre de personnes et qui font aussi bien découvrir les gens que le lieu finalement.
Et commençant toujours vers 18h-19h et finissant vers, c'était le gimmick.
Ouais, y a plus de fin, après c'est 5h,
6h, 8h-12h.
Exactement.
Et pour ceux qui veulent aller à la concrète en after, ça peut aller jusqu'à midi le lendemain.
Ah ouais, c'est ça aussi, c'est que la nuit, j'ai l'impression, c'est rallongé.
On
ça
peut ne jamais se coucher.
Ouais, on peut ne jamais se coucher, c'est ça. J'aimerais comprendre quand même ce baron, parce que même vous, en tant que videur, en tant que portier, Big John, c'est un moment important. Et c'est un lieu spécial quand même. Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Pourquoi? J'aimerais votre point de vue à vous. Pourquoi ça a changé la donne? D'ailleurs, vous, quand vous êtes arrivé, vous racontez, vous dites, vous, le premier jour, ça ne vous a pas trop plu. Hein.
Oui, moi, au début, c'était un petit peu compliqué de travailler dans cet environnement-là. Je venais plutôt des clubs de masse où un oui-non suffisait et on passe à la personne suivante. Là, c'était l'art de la négociation. Mais c'est des négociations qui pouvaient durer de 23h jusqu'à 6h du matin. On a des gens qui faisaient la queue toute la nuit au baron.
Alors on rappelle quand même le baron, son histoire, parce que pour ceux qui ne connaissent pas et qui n'ont même pas pu approcher, on parle dans le vide là. Le baron, ça a d'abord longtemps été un bar des années 80, qui était un bar plutôt sulfureux, un bar à entraîneuse. Ça continue les années 90. Et puis dans les années 2000, début des années 2000, c'est ça à peu près.
Oui, c'est ça.
Là, ça devient un bar beaucoup plus mondain.
Il y a eu une fermeture qui a duré pendant un an et demi et... Et le patron des lieux a fait une rencontre avec Lionel et André, qui eux faisaient une soirée mensuelle qui s'appelait la Johnson. Et ils ont voulu faire un concept qui s'appelait le club de copains. Parce qu'à l'époque, sur les Champs-Élysées, la plupart des clubs étaient au moins autour de 400-500 personnes. Le baron est arrivé avec un club de 150 personnes. Donc en fait, là où d'autres clubs se permettaient d'avoir un carré VIP et on va dire la foule, ici c'était un club
où il fallait
un carré VIP dans le club. Et c'est uniquement certaines personnes qui connaissaient les bonnes personnes ou qui étaient un peu privilégiées qui pouvaient accéder au club.
On est en plein cœur de ce qu'on a appelé les années de la branchitude. Effectivement, André, c'est le fameux graffeur.
C'est ça.
Il n'a pas que ce talent-là, mais entre autres, Lionel était vraiment un homme de réseau, de connexion qui a ouvert et qui ouvre aujourd'hui, qui orchestre encore nombre d'adresses, les fameux hôtels Amour,
le carrousel.
Donc c'est vrai qu'ils avaient déjà avec eux toute cette avant-scène, comme on appelle, de la branchitude parisienne.
Ouais, c'est ça. C'était le début des années bobos, hein, ce qu'on appelait les bobos. Donc,
c'était les bobos qui sortaient quand même.
Mais quand le club a démarré, c'était vraiment le concept, c'était de justement pas faire entrer ce qui rentrait dans les autres clubs de l'avenue des Champs-Élysées, c'est-à-dire là où il fallait avoir le gel bien posé, la barbe rasée, taillée comme il faut, où il fallait sortir soit le costard, soit des vêtements de marque. Baron, vous veniez en basket avec un jean un peu déchiré,
chemise bûcheron, c'est
voilà,
ce que vous
racontez. Chemise de bûcheron,
mais en même temps, rasée, ce qui fait lieu aussi, c'est ce que vous racontez à un moment donné, c'est quand il y a De Niro qui se pointe avec une casquette, hein, comme
c'est
vous aujourd'hui,
ça, avec une barbe
qui a l'air de rien.
En fait, c'est ça, c'était un club d'artistes. En fait, on demandait pas aux gens de spécialement soigner leur image, on leur demandait juste d'avoir quelque chose de cool et d'intéressant à dire.
Et quand est-ce qu'il va rouvrir alors ce Baron là?
Ça, moi, je ne sais pas.
Jamais.
A priori, c'est prévu pour le début de l'année. Qui arrive début 2017.
Et alors dans la même idée, est-ce que quelqu'un a des infos ici?
Ça va changer. Ça va changer.
Déjà, ils vont changer le décor déjà. Ils ont refait
tout le club et le concept du club va changer.
Le décor qui avait gardé un petit peu cette atmosphère, je vais pas dire d'un claque, mais qui était quand même
c'était
vraiment l'idée d'un bar à entraîneuse.
Oui, c'est
vrai.
On a absolument pas touché la déco quand on a repris le club. On a gardé cette tapisserie de velours rouge au mur. On a gardé ces photos pornographiques des années 30-40. Il y a absolument rien au niveau de la déco qui a changé. La seule chose qui a changé, c'est que
il y avait un robot qui faisait une interview.
D'ailleurs, on peut encore trouver les vidéos sur les sites de vidéos en ligne.
Oh mon Dieu.
Oui. C'était pour la chaîne Cap 24 à l'époque. Ça s'appelle Les Couloirs de la Night. Si vous voulez voir des images du Baron d'il y a 10 ans, vous les trouverez.
Et puis, si vous voulez avoir quelques précieuses anecdotes, vous les avez dans le livre de Big John de Panama. On va en reparler. Mais bon, bref, aujourd'hui, le Baron, c'est en stand-by. Ceci dit, la vie continue quand même et la vie nocturne continue, Antoine. Parce que quand vous faites votre petit guide, là, il y en a quoi? C'est 150, vous, des bars et restos planqués?
Ah ouais, c'est 100.
C'est 100, 100, c'est déjà pas mal, il a fallu faire un tri. On laisse aujourd'hui les restos de côté, mais quand on regarde, il y a quand même des bars à cocktails plutôt pas mal. On commence par quoi? Le Fitzgerald?
Mais d'abord, qu'est-ce qui se fait un bar planqué? C'est du pipeau?
C'est pour les.
Ça dépend.
Quand on parle de bar planqué, soit il est planqué, soit il l'est pas.
Oui,
c'est quoi la définition d'un bar planqué?
Un bar planqué, c'est celui que normalement, il faut connaître le moyen de rentrer. Si on ne voit pas, il faut connaître. Il faut être un initié pour se dire, tiens, je vais pousser cette porte aveugle.
Il n'y a pas de
la rue. Je vais traverser cette pizzeria et pousser et toquer dans le frigo. Donc c'est ça l'idée un petit peu. C'est vraiment les speakeasy. Ça a été lancé à New York avec le Place d'Antel vers 2005-2006. Il fallait aller dans un restaurant de hot dog et puis on fallait rentrer dans une cabine téléphonique, téléphoner et puis quelqu'un ouvrait le fond de la cabine téléphonique pour rentrer dans le bar.
Mais pourquoi cette manière de tendance, ce filon fait florès aujourd'hui? C'est parce que le public joue un peu comme ça au speakeasy, à la prohibition, il joue à se faire peur parce que finalement,
on y accède
en vérité assez simplement.
Oui,
peut-être pas tous,
mais même pas Big John à l'entrée parfois.
On joue à se faire peur parce que déjà c'est pas à l'époque des speakeasy, c'est qu'on se faisait prendre, on allait en prison, donc là c'est quand même un peu plus cool. Et en vrai, c'est simplement, je pense que pour redonner un peu de magie à
les adresses d'initiés, voilà, aussi, c'est on se en dire, fait partie ou pas. Quoi.
Voilà, que tout le monde sait tout le temps avec tous les réseaux sociaux, là de se dire bon tiens je vais montrer que j'en suis, je sais, je fais passer dans cette porte secrète.
Bah, ça rejoint un peu le bar de copains, quoi.
Oui, c'est ça, mais se dire, genre, voilà, je fais partie d'une petite bande qui sait, quoi. C'est ça le
truc. Ce qui plaît, c'est le sentiment d'exclusivité, justement.
Voilà.
C'est que les gens se sentent à part. Parce qu'ils ne sont pas mélangés à la foule.
Alors, comme dit Karine, des adresses, le Fitzgerald.
Oui, le Fitzgerald,
c'est un. Comment?
Alors, il vient d'ouvrir. Il n'est pas dans mon guide, celui-là, parce que c'était trop tard, mais je le dis quand même. Mais
ça permettra de faire une deuxième édition.
Ben, c'est ça. C'est dans le 7e, qui n'est pas un arrondissement qui est plein de bars à cocktail tant que ça. Et donc, c'est derrière un restaurant qui s'appelle le Fitzgerald. Il y a une porte comme ça, un peu matelassée. On rentre dans un tout petit boudoir, laiton, petite lustre à pampille, des très bons cocktails. C'est tout petit, mais vraiment, c'est comme ça. Quand on passe devant, c'est un restaurant. Et il faut vraiment aller au fond du restaurant pour découvrir ce bar à cocktail.
Je reconnais que c'est vrai. Mais c'est vrai ce que vous dites, parce que du coup, moi, j'y suis allé au restaurant, je l'ai testé. Vous savez, on a un bar derrière, ce qui serait la fin,
ce serait
du côté planqué.
Ah, oui.
Ce serait malin, mais enfin, en même temps, s'il est planqué, s'ils disent c'est là, le bar, à la peine de le planquer.
Et ben voilà, non, vous n'en faites pas partie, Emmanuel.
Donc, j'ai pas cherché.
Pour le prochain, on va vous faire patienter un petit peu, on va faire une petite pause sur BFM Business pour les prochaines adresses. Alors là, attention, on va donner des adresses à Google. On se retrouve tout de suite pour Goodlux Paris.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Goodlux Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Le meilleur
cœur de la nuit parisienne en 2016-2017, parce qu'il n'y a pas que le baron dans la vie, même si, on le disait tout à l'heure, il a changé pas mal de choses dans la nuit parisienne. Nous sommes toujours en compagnie de Julien Véric, auteur de Paris Dernière, le livre aux éditions du Chêne, de John Wieder, au baron Wieder Portier, au baron pendant des ans, et surtout auteur du livre Big John de Paname, et d'Antoine Bess, auteur de Paris Bar et Resto Planqué chez Parigram. On a commencé avec une petite adresse, le Fitzgerald, donc c'est derrière le restaurant.
Une adresse dans l'adresse.
Voilà. Que vous trouverez le bar.
Pyrrhus.
Ça vient d'ouvrir. Dans votre guide, vous nous parlez aussi du blend.
Oui, blend, le blend. C'est vraiment au cœur du triangle d'or. On y revient. Ça bouge encore. Il avait été encore plus fort dans le côté caché parce que c'est déjà une porte aveugle, en fait, le blend. Mais pour y rentrer, il faut en plus avoir le mot de passe. Il faut connaître la porte où toquer et avoir le mot de passe qu'on récupère sur le Facebook en essayant de demander s'il vous plaît c'est quoi le mot de passe. Et enfin, on peut rentrer. Donc, on descend dans un escalier un peu borgne et on arrive dans un petit salon avec des têtes empaillées au mur, des chauffe-fauteuils crapauds, des barman en liquette et qui, là aussi, dans une ambiance très très curieuse de tout petit boudoir au cœur de ces zones d'utilisation de nuit assez conséquente. Donc on sort de là à 6h du matin.
Ah bah super.
Et on est pas mal.
Rue Pierre Charron, dans le 8e
arrondissement. Le cœur du Champs-Élysées.
ça me fait rire parce que, bien sûr, dans vos bars planqués, il faut toutes ces infos-là. Et puis quand on veut rentrer dans les clubs select, et ben on passe par des gens comme Big John. Et alors, il y a au chapitre 51 le top des meilleurs arguments pour rentrer. Je vais pas tous vous les faire parce qu'on aurait pas assez de temps, mais parce qu'il y a quand même des perles. Parce que c'est bientôt la fin du monde. Parce que j'ai 21 000 euros sur mon compte. On vous l'a dit. Tout ça, c'est vrai. Hein.
Tout ça, c'est vrai.
C'est les brèves de nuit, ça.
Parce que l'image de ton club serait meilleure si tu me laissais entrer. Ou parce que j'ai plus de 100 000 followers sur Instagram.
Ça aussi.
Les gens de la nuit ont quand même une sacrée imagination. Hein. On pourrait penser que.
Bah ouais.
À cette heure-là, les gens s'éteignent, mais pas du tout.
Je pense que l'alcool et certaines autres substances peuvent inspirer, en effet. Donc, rendre les gens très créatifs.
Désinhibé, en tout cas. Ouais. Mais alors, vous, Big John, d'abord, ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai qu'on parle. On a fait pas mal d'émissions sur la nuit, on a souvent invité beaucoup d'acteurs de la nuit, et on n'a jamais eu véritablement, nous, l'idée d'inviter ce qu'on a pu alors appeler, je ne sais pas si c'est un portier, un physio, comme on appelait à la grande époque.
Ah non, parce qu'il y a un physio en plus.
Un videur, j'en sais rien, c'est vous qui allez nous dire. Mais qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'en faire un livre? Parce que c'est vrai que vous avez une matrice énorme du matériel. Il n'y a pas eu un videur qui a eu l'idée de dire, mais moi je vais vous raconter ma nuit, je suis peut-être l'un des mieux placés pour ça, je suis une vigie.
En général, les gens qui fréquentent beaucoup la nuit et qui bossent la nuit disent que l'endroit où il se passe le plus de choses, c'est à la porte, à l'entrée d'une boîte de nuit. Donc, l'idée, elle est venue assez rapidement pour moi de développer un programme court. Et le programme court n'ayant pas abouti, j'ai enchaîné sur le programme court pour la télé. Et l'idée n'ayant pas abouti, j'ai enchaîné sur le livre. Et du coup, j'ai relevé ce qui se passait tous les soirs.
C'est-à-dire
j'ai relevé dès que je pouvais tout ce que j'entendais.
Pardonnez-moi, pour le programme court, il y a peut-être des choses qui passaient pas forcément. On est quand même dans le monde de la nuit, mais
c'est sûr, on est dans un monde sans filtre.
Oh, bah ouais, c'est ça, un monde sans filtre.
Mais moi, je pense que tout peut passer du moment où on y met les formes.
L'humour. Ouais.
Les formes et l'humour, ouais.
Mais alors, vous le racontez dans l'ouvrage, mais d'abord, comment vous êtes devenu videur? Je sais que vous êtes un ancien
basketteur. Ouais, voilà, moi, j'étais.
Je pense pas qu'il y ait simplement les épaules qu'il faut avoir.
Alors, clairement, si, en fait. C'est-à-dire
dans
que
j'étais
un basketteur au chômage. Et du coup, comme j'étais grand et costaud, le premier job qu'on m'a proposé, c'était videur de boîte de nuit.
Donc,
je me suis retrouvé à bosser dans des boîtes de nuit de Paris et de la banlieue pendant 2 ans, jusqu'au jour où j'ai atterri au Baron. Et j'ai commencé en tant que portier et videur et je suis devenu physio par la suite.
Alors, quelle est la différence entre portier et videur? Là, c'est plutôt la musculature, la cage générale. Le physio, il faut être un petit peu plus malin. On est déjà dans la négociation et la diplomatie.
Alors, je dirais pas, parce que ce serait un peu péjoratif pour les videurs, qu'il faut être nécessairement plus malin pour être physio, mais en général, le physio représente l'image d'un club. Et pour représenter l'image d'un club, il n'y a pas beaucoup de patrons qui veulent de quelqu'un d'un mètre 95 et 120 kilos comme moi. Donc, en général, on prend soit une fille un petit peu mignonne, soit un mec looké, des gens de la mode, etc. Et du coup, j'ai jamais été le premier choix. Bach, lui, s'est imposé parce qu'il avait son style un petit
ça
peu.
C'est
de... Bach, c'était le physio emblématique du baron parce qu'il avait son style coupe afro. Il conduisait des voitures, il conduisait des voitures des années 60. Il s'habillait comme Shaft. Mais c'est vrai que moi, ça a mis un peu plus de temps parce que j'étais vraiment trop costaud. D'ailleurs, le premier soir où j'ai travaillé au baron, Lionel voulait me virer parce qu'il disait que je prenais trop de place.
Simplement. Dégage, t'es trop costaud.
Il m'a dit non, mais c'est quoi cet ours?
En tout cas, aujourd'hui, pour revenir à nos adresses, on disait il y en a plein dans ce bouquin Paris dernière. On a parlé des galeries, ça va jusqu'au plus sulfureux, bien sûr, au club dont on ne peut pas parler ici, mais vous achèterez le bouquin aux éditions Duchette. Mais aujourd'hui, du coup, qu'est-ce qui vous reste, j'ai envie de dire, Julien Verrier, vous sortez où, par exemple? Aujourd'hui, quels sont les buts qui bougent?
J'ai un peu une double casquette, en fait, par rapport à tout ça. C'est qu'à la base, je suis attaché de presse. J'y ai rencontré justement André et Lionel au tout démarrage quand j'ai monté mon agence et je suis parti tout de suite
détaché de presse.
De presse et je suis parti tout de suite sur la demolition party du Royal Monceau.
Qui a été aussi un moment fort de la nuit des années 2000. Ouais.
Je crois que j'ai mis 3 mois à m'en remettre. J'avais le monde entier au téléphone et puis du jour au lendemain, le lendemain c'était fini, plus personne. Ça revenait à la normale.
C'est un peu comme Juppé, soudain le grand vide.
Et là le grand vide.
Il était pas invité Juppé.
Et donc invité. Aujourd'hui,
De fait, d'avoir ce métier-là, je suis obligé un petit peu de me rencarder sur tout ce qui se passe parce que j'ai des clients qui veulent faire des lancements XY, il y a des initiatives qui doivent se monter, des synergies entre des lieux, des chefs ou peu importe. Donc moi aujourd'hui, ce qui me reste, c'est évidemment des gens que j'accompagne depuis longtemps. Je citerai l'hôtel Jules et Jim, qui a un bar quand même qui est...
C'est marrant, on en a parlé il y a quelques jours en plus, qu'ils font un truc marrant, ils font un calendrier de l'Avent.
Calendrier de l'Avent.
Voilà, tous les jours, vous pouvez y aller au bar et vous pouvez gagner un petit cadeau, c'est pas mal.
En plein cœur du Marais, qui est une adresse cachée aussi.
Elle est dans le guide.
On passe par une galerie pour arriver jusqu'au bar. Et là, il y a quand même un barman qui s'appelle Régis Sellab, qui fait des cocktails à tomber, qui est vraiment un vrai professionnel, et l'équipe est vraiment adorable. Donc c'est un lieu où j'aime vraiment aller. C'est pas le lieu festif, mais c'est un lieu...
C'est le début de la nuit, quoi.
Tout à fait.
Cheminée extérieure.
Julien, ce qui est intéressant peut-être aussi, notamment, il y a toujours eu à la nuit, effectivement, des réseaux d'influence, des cercles, mais de plus en plus, on a aperçu que dans les années 2000, c'est peut-être ce qui a tué un petit peu les boîtes ou les nightclubs. Il y en a encore, mais moins. En tout cas, dans Paris intramuros, c'est pas dans la nuit. C'est-à-dire que c'est devenu vraiment un endroit, la nuit, où on travaillait. Finalement, vous parliez toute cette connexion d'artistes, de directeurs artistiques, de journalistes.
Beaucoup d'affaires se font la nuit. Ouais,
aujourd'hui, la plupart des réseaux et des influences se font la nuit. Et du coup, c'est ce que racontait d'ailleurs très bien l'émission Paris dernière, ce que vous reprenez dans votre guide, c'est que ça ne se passe pas forcément la nuit dans des bars ou dans des nightclubs, ça peut être dans des restos, mais aujourd'hui, les galeries, les événements vont investir des lieux et des endroits, parfois des librairies totalement différents, parce qu'on a l'impression que ces gens-là, derrière leur côté dilettante, pas du tout, ils font de la nuit vraiment un moment de travail.
C'est quand même une rigueur, hein, quand même. Hein. C'est-à-dire que ça a l'air foufou et
à partir dans tous les sens.
Évidemment, il y a un peu de ça, mais en réel, même moi, quand je sors, même si je vais au bout, le matin, à 7h, il faut se lever. Et puis là, il y a une équipe à manager, etc., etc. Et puis tous les contacts de la veille, faut les relancer.
Les contacts de la nuit, ouais.
Il y a beaucoup de choses qui se disent et qui n'aboutissent jamais.
Il faut être capable de s'en rappeler.
Mais aussi beaucoup de choses qui se font et qui existent quand même.
C'est ça, aussi.
Je vais défendre l'éloge de la branchitude, mais en vérité, ils ne sont pas si dilettantes que ça.
D'ailleurs, Big John vous racontait, alors peut-être pas sur les contrats, ça, je ne sais pas si vous avez permis de temps en temps, mais en tout cas, vous racontez que vous avez permis à des couples de se rabibocher, à des couples de se former.
Très honnêtement, je pense qu'il y a plus d'une centaine de couples qui se sont formés grâce à moi.
C'est l'inverse pour moi.
Ouais. Je suis désolé. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont pu mettre en place des contrats. Parce qu'en fait, la nuit, c'est un endroit de rencontre. Et ce que j'expliquais, c'est qu'un endroit comme le Baron, les gens qui étaient à l'intérieur se sentaient privilégiés. Donc forcément, les gens qu'ils avaient en face d'eux, même s'ils ne les connaissaient pas, le contact était plus facile.
Exactement.
Parce qu'ils se disaient que si cette personne était à l'intérieur, c'est qu'il a sa place ici. Et du coup, le contact se crée et c'est beaucoup plus facile ensuite d'envisager une collaboration professionnelle.
Et d'ailleurs, je pense qu'il y a des gens qui voulaient rentrer pour ça.
Exactement.
En essayant de se dire, c'est le moment où jamais d'aller capter telle personne. Et ça existe encore.
Des petites adresses, Antoine. The Place to Be, justement, le Castor.
Ah, le Castor Club, ça c'est un bar sympa de la rive gauche qui ressemble à une sorte de manoir du Dakota, enfin qui est tout boisé sous le regard vitreux d'un castor empaillé.
Vous aimez les trucs empaillés, vous, hein?
C'est pas moi, c'est les décorateurs. C'est les décorateurs qui font de l'empaillage partout. Ouais, c'est peut-être un empailleur à Paris, il a un boulot. Et en fait, donc c'est toujours pareil, des cocktails. C'est derrière une... En fait, on dirait un tas de planches, l'entrée, en fait. On dirait que c'est tout clouté, mais il suffit de toquer, puis on rentre, et c'est vraiment très, très sympathique.
Le Castor Club, c'est rue Hautefeuille. Je donne pas le numéro exprès, vous chercherez un petit peu.
Hautefeuille n'est pas très longue, remarquez.
Dans le 6e arrondissement de Paris. Et pour l'ambiance chalet savoyard, vous avez ça aussi?
Alors, l'ambiance, bien sûr. Vous voulez avec un bar à tartiflette, peut-être?
Ah oui.
Alors, je peux retrouver ça. Oui, en ce moment, c'est pour l'hiver. En ce moment, là, c'est le. Comment ça s'appelle, là, déjà?
Pavillon
le pavillon Puebla, au milieu
de
au but de Chaumont.
Pourtant, celui-là, on le voit bien, le pavillon Puebla, hein, au but de Chaumont. On le voit que lui.
Alors, une fois qu'on est dedans, mais sinon, ça fait vraiment une drôle de maison qu'on se demande à poser là. On n'a pas forcément envie de monter les marches pour aller voir ce qui s'y passe. Et ben, on devrait. Parce que là, pour l'hiver 2016, ils se sont mis en façon chalet de ski, donc effectivement, avec décoration moumoute, grosses planches, vieille paire de ski, et puis un bar à tartiflette, et puis même une soirée le vendredi qui s'appelle la frisquette.
Et si jamais il neige, on peut faire du ski. Moi, j'ai déjà vu des gens skier.
Oui, mais c'est vrai.
Quand il a neigé.
Ah, c'est une piste bleue, là.
Ouais, mais c'est vrai.
Ça dépend combien tu ressors du pavillon Puebla, quoi. Ça peut être tout ça.
Allez, il reste deux minutes. Chacun une dernière adresse.
Alors, moi, ça sera un restaurant.
Ouais.
Et qui vient d'ouvrir, là, ses portes il y a quelques mois. C'est le restaurant Istres, qui est un lieu un petit peu hybride, qui est influencé par les modes de consommation des huîtres à New York, et qui allie bar à cocktail, restaurant et light bar, le soir, avec des initiatives musicales, etc. C'est un lieu vraiment à voir, à tester, c'est totalement surprenant, quoi.
Et la cuisine, elle est quand même avec, et notamment les huîtres, on est quand même dans la force atlantique, hein. Il y a écouté l'énergie new-yorkaise, mais les huîtres, elles sont plutôt mélides.
C'est breton, hein, oui, c'est très authentique.
Donc c'est bien réussi.
Il y a de la joie, quoi.
Big John.
Un endroit.
Ouais.
Si vous voulez boire des bons cocktails ou des alcools un petit peu rares, je vous conseillerais le Clink dans le 9e. K-L-I-N-K. Si vous aimez le whisky japonais comme moi, ouais, allez-y.
Waouh, le Clink.
Je n'ai pas le nom de la
rue.
Mais
on va chercher,
Mais vous le trouverez.
Regardez, il faut chercher dans mon livre.
Il y est dans Paris.
Et après, les bonnes librairies, on vous retrouvera où?
La nuit, on n'arrive jamais à s'en défaire, donc je reviendrai.
Prochainement, je crois.
Une toute dernière adresse, rapidement, dans les...
Bon, alors, moi, j'ai le Macumba.
Macumba,
Jean-Pierre Madère, où que tu sois. On n'est pas à Mérignac dans les 70. Le Macumba, c'est le nouveau nom du Slow Club rue de Rivoli. C'était un vieux.
Il y en a eu des Paris dernières aussi.
Des Slow Clubs, c'était une vieille
cave. C'était le New York Club aussi.
Le New York Club encore avant, je crois. Enfin, ah non, je
non, après, après, après c'était New York, New York, c'était. New York, Paris, un truc comme ça.
Donc, bref, maintenant, c'est Macumba.
Ça, c'est le Macumba, avec une décoration évidemment égyptienne, avec un truc qui s'appelle le Macumba. Ça tombe sous le sens. Égyptien, avec façon, avec égyptien, un peu rétro-futuriste. C'est très curieux.
Truc empaillé, non?
Alors, pas dans. Oui, non, mince. C'est un problème.
Mais par contre, de la momie.
De la momie.
Vous regardez quand même ce fameux néon qui éclaire la rue de Rivoli.
Non, alors je connais.
C'est qui dansait.
Mais
petit coup qui
passe. C'est rigolo, ils ont fait comme dans Tintin des momies avec des acteurs de la nuit. Enfin,
bar et resto planqués. Il y a toutes ces adresses données par Antoine Besse et aux éditions Paris Gramme. Merci infiniment à vous. Une tonne d'autres adresses dans Paris Dernière, le livre aux éditions du Chêne. Merci beaucoup. Julien Berry.
Merci
à vous, Big John de Paname, pour toutes ces anecdotes.
Merci.
On en a raconté qu'un tout petit peu. Lisez la
beaucoup,
suite. Ouais. C'est Anne Carrière Édition. Je voulais juste citer un bouquin, Jean-Pierre de Lukovic, qui lui aussi était un petit peu comme vous, journaliste noctambule, mais juste avant vous, en fait, 1950-2000, People Bazar, souvenir d'un infiltré dans le beau monde.
Ah, c'est un alcoolique, c'est mignon, c'est exactement
en
ça.
En tout cas, vous ferez aussi plein d'anecdotes. C'est avant aujourd'hui, mais c'est absolument savoureux aussi. Merci infiniment à tous
merci
les
trois.
Nous, on va se ranger les bécanes avec Emmanuel. Et puis, on va continuer un petit peu l'émission. C'est Good Luxe dans un instant.
Good Luxe Paris, l'édition du week-end, le livre de la semaine.
Et pour le livre de la semaine, on sort des nuits parisiennes. On est plutôt très cosy, très gentil. C'est blanc et rose et c'est Pierre Armé. Pierre Armé, il sort des tonnes de bouquins. Je voulais vous parler de celui-ci, Emmanuel. Je vous vois. Mais il y en a des super gros, des super beaux là pour cet hiver. Il y en a sur le chocolat, etc. Bref, celui-là, il est un peu sympa. Je vais vous dire pourquoi.
Un peu différent. Ah.
C'est un livre pop-up. C'est-à-dire que son Ispahan... Il est en 3D, c'est-à-dire que c'est grande création. Alors attendez, hop, je vais pas rater. Hop là, le cheesecake satine, il est en pop-up.
Ah non, mais c'est pas mal.
C'est rigolo, non?
Oui, parce que l'architecture compte énormément et on l'a souvent reçu. Il explique qu'il dessine tous ses gâteaux.
Voilà.
On les voit en 3D.
Ils y sont tous.
La cerise sur le gâteau.
Voilà, la cerise sur le gâteau, elle est là, hop là.
Ah,
Donc ça s'appelle Surprise et gourmandise, c'est chez Solar Éditions. Ce qu'il y a, c'est que mise en volume, c'est l'atelier Sage, quand même, il faut le signifier, les textes sont de Coco Joba. Et les recettes, elles sont toujours aussi pointues, quand même. Donc c'est un magnifique ouvrage, mais il faut s'y connaître un petit peu en pâtisserie, parce qu'il y a les recettes, c'est super bien décrit, etc.
Et puis, c'est un coffee table pour la faire.
On est entre les deux, parce que si vous maîtrisez un peu la pâtisserie, franchement, en tout cas, c'est un joli cadeau de Noël. Je trouve que le dessin aurait pu être encore un petit peu plus... Ah, celui-là, j'adore. Regardez le petit, les petits macarons, là, vous avez...
Voilà, vous avez j'aime bien, parce que c'est vraiment, je vous dis, c'est important. Oh là là, le carrément chocolat.
Et ça fait longtemps que Pierre Armé voulait faire ce livre pop-up, donc voilà, c'est
fait. Oui, mais il y a des textes très courts. On sent que c'est quand même un ouvrage, d'ailleurs, d'abord, qui joue sur ça. Je crois qu'il y a aussi un travail sur le façonnage en ce moment qui est en train de réinventer un peu les beaux livres. Et notamment, Solar fait un gros travail autour de tout ce façonnage, ce papier.
Et comme ça, on retombe un peu en enfance. Voilà, ça s'appelle Pierre Armé, Surprises et gourmandises. Vous voyez, j'ai réussi à vous vendre un bouquin de Pierre Armé. Allez, l'agenda.
Goût de luxe Paris, l'édition du week-end, l'agenda.
Emmanuel, une expo.
Une expo qui a commencé depuis quelques semaines, qui va durer jusqu'au mois de février, dans un lieu dont on ne parle pas si souvent ici, dans Goût de luxe, du côté de la Bibliothèque nationale de France. Attention, du côté de la Bibliothèque François Mitterrand, du côté du quai François Mauriac, c'est dans le 13e arrondissement, qui est le temps d'une très courte exposition, mais très sympa, très enchanteresse, nous raconte la France d'Avedon. Alors Avedon, Richard Avedon, grand photographe américain, très célèbre, notamment pour son travail de mode pour les plus grands magazines, bien sûr Vogue, Harper's. Et on s'aperçoit que ce photographe qui était américain a toujours eu un rapport particulier avec la France. Alors ça va commencer sur l'expo qui commence sur un tournage. Il était photographe d'un tournage d'un film avec Fred Astaire et Audrey Hepburn qui se déroule à Paris. Et c'était son premier rapport avec la France parce qu'il était photographe de tournage. Donc la première séquence, c'était celle-ci. Et puis après, de fil en aiguille, comme ça, avec un rapport un peu en pointillé, Avedon aura toujours un rapport à la France. D'abord parce qu'il va être l'un des grands photographes d'Harper's Bazaar. Donc il va couvrir les plus belles collections, les nuits parisiennes également. Il faut savoir surtout que c'est ce photographe américain qui a révélé à la France l'un de ses plus grands artistes. C'est-à-dire que sans Richard Avedon, on n'aurait peut-être jamais découvert le travail d'un de ses prédécesseurs qui était l'Artigue. Il va faire de l'Artigue une légende, aussi bien aux États-Unis puis en France. Et c'est Avedon qui l'a fait. Et puis, il y a toutes ces séquences, on parlait des grandes nuits parisiennes. Il va accompagner la saga de la revue L'Égoïste avec ses portraits. Vous savez, cette revue qui était quasiment annuelle, qui avait une périodicité assez rare. C'est une très jolie exposition.
Richard Avedon.
Courte, je trouve.
À la BNF François Mitterrand. Donc, c'est en ce moment même. Et moi, je vous emmène à Versailles pour terminer au Trianon Palace qui accueille la Maison des Rolls. Je sais que vous l'aimez, celle-là, Emmanuel. C'est du 5 décembre au 6 janvier pour une exposition. Ils ont simplement délocalisé une partie des belles pièces, justement, de pièces empaillées, mais pas seulement, de ces animaux naturalisés par la Maison des Rolls qu'on retrouve à l'intérieur de l'hôtel Trianon Palace. Donc, on a une espèce d'arche de Noël. C'est joli comme nom. L'idée, c'est que même au sein de la bûche, le pâtissier a travaillé une envolée de papillons pour ce gâteau parce qu'ils sont restés, du coup, dans cette idée de naturel et d'animaux et d'onirique. C'est assez superbe. Et voilà, pour être complètement dans ce paysage-là, au Trianon Palace Versailles. Le Trianon Palace qui vient de changer de chef, d'ailleurs, mais c'est toujours sous la houlette de Gordon Ramsay.
Un chef qu'on attend, hein. Il va falloir qu'on l'aille tester.
Exactement, vous irez tester. Good Luck, c'est terminé pour aujourd'hui. Emmanuel, mais on se retrouve la semaine prochaine avec vous, même heure, même endroit, sur BFM Business. Voilà, on remplira la hotte de cadeaux. Et quant à moi, je vous retrouve en direct dès lundi à 14h.
BFM Business, Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end.